Rôle Britannia. Jusqu'à la frontière d'Écosse, voyage dans le vert, couleur de l'espérance. Belle journée d'automne, ciel d'opale que percent les flèches des cathédrales, ces chercheuses d'azur. Les maisons gothiques de briques roses, à pignons et à windows, habillées de lierre taillée au cordeau, annonçant plutôt le confort moderne que les mystères du Moyen-Âge. Je vais vers Helena. L'aventure continue, tant mieux. Tout plutôt que cette honte dans laquelle m'avait roulé comme dans une brûlante tunique cet homme au sourire infâme. À nous deux, Durin. J'ai moins œuvré pour toi que tu n'as travaillé pour moi. Et le fruit de ton long effort, depuis des années, je vais te le ravir avec le sourire de Lady Scarlett. Elle m'appelle, ne m'abandonne pas. Me voilà, mon amour. Oh, et maintenant, assez de lyrisme, du calme et de la prudence. Helena m'y invite expressément dans sa dernière lettre. N'a-t-elle pas été toute prudente, elle, depuis que Sir Archibald est venu la retrouver cet été à Deauville? Elle ne voulait pas me reconnaître. Elle ne m'écrivait pas. Elle ne reculait pas devant la torture qu'elle m'infligeait. Douleur passagère qui nous sauvait tous les deux, car le temps était revenu alors de l'avocat, du petit avocat dont elle allait avoir besoin. Entre deux hommes comme Sir Archibald et Durin, de quelles précautions ne devait-elle pas s'entourer? Pauvre Helena, quelle vie, quelle atroce comédie de tous les instants! Ah, comme je comprenais qu'elle fût décidée cette fois à tout risquer pour y échapper. Je lui aiderai, dût-ce j'y laisser ma peau. J'ai le goût du risque maintenant. Je ne suis plus un enfant que l'on berne. Durin la prendra à ses dépens. Dieu, que cet affreux Durin m'a fait souffrir. Cette nuit noire, c'est l'Écosse. Je descends à Stirling, à l'hôtel des Deux Couronnes. Je ne puis dormir. Les Scarlett doivent venir me prendre ici demain matin en auto. À 7 heures, je suis déjà prêt. 3 heures à perdre. Un guide, il se présente, je le suis, et il me raconte des histoires que je n'écoute pas, me montre des choses que je ne vois pas. Quelques phrases me parviennent cependant. Roi d'Écosse, position inexpugnable, château du 13e. Un moment, il secoue mon indifférence en répétant Heading Hill, et son doigt désigne en rocher la colline de la décapitation. Et là, Jacques Ier, en 1421, fit couper la tête à son oncle, le duc d'Albany, à son beau-frère le comte de Lennox, à ses deux fils, Walter et Alexandre Stuart, etc. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Bon, voilà un temple grec dans le petit jardin des Douglas. Drôle d'histoire. C'est dans ce petit enclos charmant que Jacques II planta dans le cœur de Douglas sa dague royale. Ce Douglas faisait partie de la Ligue des Mécontents. « Par Dieu, milord, lui dit le roi, si vous ne voulez pas rompre la Ligue des Mécontents, voilà qui la rompra. Et aïe donc, un bon coup de couteau. Morale, il ne faut jamais être mécontent. » À quelle heure est-il? En vérité, il n'y a qu'une heure que ce bonhomme me rase. Au centre d'une pelouse, des armoiries à demi effacées sur une pierre... Je m'assieds dessus. Le guide se précipite à le temps. « Oh, ne touchez pas à Douglas, il vous arriverait malheur. » Trop tard, mon bonhomme, et j'allume tranquillement ma pipe, bien calée sur les armes de Douglas au cœur saignant. Breakfast. J'ai faim. Allez vite à l'hôtel. Mon guide court derrière moi. Il a encore quelques assassinats à placer. Helena est arrivée sans son mari. Elle était accompagnée de l'éternelle Mrs. Tennyson. Je ne connaissais pas, Lady Scarlett, cette beauté funèbre. Dans les longs voiles dont sa tête est enveloppée, elle a quelque chose de la pleureuse antique. Toutes les ardeurs de ce bronze brûlant sont éteintes. Plus encore que ses voiles, sa pâleur me la cache. Et quelle gravité dans son accueil. Mais sa main serre longuement la mienne, et je sens toute sa tendresse reconnaissante. Merci, Rudy, d'être venu. Entrons tout de suite, voulez-vous. Sir Archibald est très souffrant. Je m'assieds en face des deux femmes, tout à fait perplexe. Que se passe-t-il ? Helena déteste Archibald. Cependant, elle ne joue pas la comédie. Elle sait bien qu'elle m'a fait trop de confidences. Alors pourquoi cette figure fatale, quand je sais que sa joie est parfaite de me revoir ? Sir Archibald se portait encore très bien il y a 3 jours, et puis il est tombé subitement proie d'atroces douleurs. On a diagnostiqué une crise hépatique. Maintenant, il va mieux, mais il est si faible, si faible. Alors, nous avons décommandé tous nos amis, excepté vous. Pourquoi, excepté moi, elle ne me le dit pas. Vous êtes là, Rudy, et cela me donnera du courage. On redoute donc une issue fatale. Il faut tout prévoir, Rudy. Elle se tait. Mais leur silence à toutes deux me semble cacher des choses. Je regarde Miss Tennyson, cette Mina devant laquelle Helena m'appelle si tendrement Rudy. Mais Mina ne compte pas, c'est une petite statuette d'Orient aux yeux de verre. Des yeux dont le regard immobile est le plus souvent tourné vers Helena, comme si elle en attendait un ordre, un signe. Je suis persuadé qu'Helena doit avoir vis-à-vis d'elle bien des caprices quand elle s'ennuie, et Mina doit être là pour les supporter. Elle l'a recueillie à la mort de Master Tennyson. En dehors de cela, mystère. Mina est peut-être très heureuse, même quand Helena l'a fait souffrir. Mais ce ne sont pas ses yeux qui le diront jamais. La vie ne va pas être très gaie pour vous à Black Rooks, cher Rudy. C'est bien évident, égoïste de notre part, de vous accaparer dans un pareil moment. Je suis votre amie, Helena. Tout ce que vous me demanderez, je le ferai. Elle mit sa main sur la mienne, elle y laissa longtemps, et ceci est infiniment doux, et me paie à l'avance du drame dont je vois les portes s'ouvrir devant moi. Je suis décidé à les franchir sans un regard en arrière. Elle est si belle, cette fille de Satan, et sa main qui presse la mienne me dit qu'elle m'aime. Étrange, étrange amour. Ce que j'ai rencontré chez cette femme, c'est quelque chose qui est peut-être le contraire de l'amour tel que nous l'entendons chez nous, et ce n'en est peut-être pas moins de l'amour tout de même. Vaine formule qui n'explique rien. Mais Helena est-elle explicable ? Obéit-elle uniquement à des instincts qui la roulent dans un chaos où elle s'accroche à moi par hasard ? Ou suit-elle une idée fixe quand elle m'entraîne dans ses chemins de luxure ? Oublie-t-elle avec moi ? Ou espère-t-elle ? Ou plus simplement, ne suis-je là que pour lui donner la joie de ma destruction ? Peut-être pourrais-tu répondre à cette question, toi, la petite poupée aux yeux de verre ? Non, garde ton silence. Dès nos premières nuits à Deauville, quand nos baisers étaient un massacre, j'avais déjà l'intuition que cette atroce perplexité était un des éléments assurément le plus puissant de mon affreux plaisir. C'est parce que je ne sais rien que je reste son captif. et je ne suis pas venu pour me délier. » En cours de route, quelques paroles banales. Nous pénétrons dans le pays de Rob Roy. Quelques souvenirs de ciné, et puis les lacs. Mes pensées n'étaient pas au paysage. Des tours, des arches branlantes retenues par d'antiques rameaux, des architectures mélancoliquement penchées au-dessus d'un précipice, de sinistres demeures féodales dont les échauguettes et les machicoulis surgissent au-dessus des forêts de chênes et de bouleaux. J'ai déjà vu tout cela sur des cartes postales. Peinture anecdotique, chromo pour journaux illustrés, tournons la page. Soudain, au milieu de ce chaos de montagnes et de torrents, au sein de ces tristes bruyères, au bord des eaux vertes et du sommeil monotone des lacs où se mirent quelques ruines solitaires, je me sens senti envahi d'une angoisse dont je n'étais pas maître de secouer l'étreinte. C'est que je sentais peser à nouveau sur ma main la main d'Héléna. C'est que nos deux têtes étaient penchées derrière la même glace. C'est que nos deux fronts rapprochés nous faisaient l'esclave de sa pensée. Je me surpris à éprouver le même frisson devant certaines ruines ressuscitées au sein d'une nature dont la sauvagerie romantique m'eût laissé complètement froid si je l'avais senti contre le mien ce beau visage funèbre. Il semblait, lui aussi, appartenir à ces époques révolues. Les reines amoureuses et martyres, les nobles ladies retenues prisonnières dans ces caveaux de pierre où chaque légende a laissé sa trace, ne devaient pas avoir une figure plus tranquillement fatale, plus asservie à un inévitable destin que la figure de Lady Scarlett. Elle ressemblait à une de ces statues de marbre qui, au bord des tombeaux, dans les cimetières ou au fond des cryptes, ont immobilisé la peur. Il était inutile qu'elle parlât. Elle était là. Et voilà qu'à mes yeux, les glens se repeuplaient. Je regardais avec elle, descendant des ruines dont la poussière du temps s'était envolée, les lairds cuirassés d'acier, les bards, les clans dans leur tumulte guerrier. Par tous les sentiers, ils glissaient vers la plaine qu'ils allaient rougir de leur sang. Tous les crimes de la guerre des Deux Roses, les massacres de la Réforme, les vengeances séculaires qui perpétuaient dans toutes les familles des martyrs et des bourreaux, je les évoquais d'une façon d'autant plus précise que je n'ignorais pas que les haines encore aujourd'hui n'étaient pas éteintes, et que s'il y avait des palaces à Édimbourg et des chantiers à Glasgow, il ne fallait pas pénétrer bien loin dans les Highlands, au bord des lochs et des glens, pour retrouver, sous les toits des hameaux et derrière les douves des châteaux forts, avec les mœurs de jadis, des inimitiés farouches qui ne reculaient devant rien pour se satisfaire. Nous devions ne plus être loin des Blackrooks quand Héléna me dit sans préambule: « Vous savez que les Scarlett sont apparentés au Mont Rose et que Sir Archibald descend aussi par les femmes de MacGregor, célèbre dans l'histoire d'Écosse, sous le nom de Rob Roy. C'est sans doute à cause de cette couronne de légende qu'il dédaigne tous les titres et ne porte que le plus humble, cependant qu'il se fait donner de la seigneurie par ceux qu'il appelle encore ses vassaux et par ses laquais. Vous ne sourirez pas de ces choses, je dis, il ne faut pas le contrarier. Et comment donc? Cela m'était si parfaitement égal, l'ascendance des Scarlett. Toutefois, comme Héléna me regardait avec insistance, je voulus bien me rappeler, en faisant appel à mes souvenirs d'écolier, renouvelés par mes lectures de l'Old Mortality de Walter Scott, que le fameux outlaw Rob Roy s'appelait de son vrai nom MacGregor et qu'il n'était devenu bandit qu'à la suite de ses démêlés avec le duc de Montrose. « Voilà qui est pour le mieux, fis-je, la paix est faite entre les deux races, puisque Sir Archibald Scarlett, par sa mère, unit le sang des deux familles ennemies. » Sans me répondre directement, Lady Helena me dit encore: Rumbler laissa cinq fils. Les Gregor, comme on continuait ainsi à appeler les descendants de Rob Roy, ne cessaient point depuis plus de 200 ans de faire une guerre sourde aux descendants des Montrose. Quand Elizabeth, qui était une Gregor, se prit d'amour pour le père de Sir Archibald de se marier avec lui, malgré la volonté paternelle. Le père de Sir Archibald, Sir Edward Scarlett, ne faisait pas une méchante affaire car il était à peu près ruiné. Le père d'Elisabeth passait pour fort riche, ayant mis de gros capitaux dans les premiers chantiers de la Clyde. Il possédait également d'immenses terrains dans les Highlands, puis le château des Blackrooks dont Rob Roy s'était jadis emparé. Mais il décida qu'il ne donnerait aucune dot à sa fille et qu'il défendait à son héritier, le petit David, il n'avait que ses deux enfants, de jamais venir en aide à sa sœur. Or, ce Gregor, beau-père d'Edward Scarlett, mourut à quelque temps de la mort, de mort subite, et l'on parla de poison. Le petit David hérita, mais à 15 ans, il périt lui-même une nuit d'hiver où il s'était égaré pendant une chasse. On découvrait le matin, le lendemain, son cadavre à moitié dévoré par les loups. Du coup, le père de Archibald héritait. Et aujourd'hui, Sir Archibald, fils aîné d'Edward, a réuni dans sa main toute la fortune des Gregor et habite les Blackrooks, devenus sa propriété. Les Gregor étaient très aimés dans le pays. Les Scarlett y sont détestés. Sir Archibald a réuni sur sa tête toutes les haines accumulées par son père. C'est ce qui lui a fait rechercher son haut emploi aux Indes. Il en est revenu, espérant que son absence avait tout apaisé. Au fond, depuis que nous sommes arrivés, nous n'avons pas à nous plaindre. Mais le pays nous regarde passer avec une indifférence sous laquelle on sent une hostilité toujours prête. Je vous dis tout cela, Rudy, pour que vous soyez au courant des choses et que vous ne fassiez pas de gaffe. Elle m'avait dit tout cela dans le plus pur français. À cela, je devais comprendre que le propos était d'importance. Oh, elle ne m'avait pas appelé pour s'amuser. J'aimais mieux cela, mais quelle femme! Je vous remercie, Helena, je comprends mieux maintenant la tristesse qu'il y a pour vous à vivre dans une pareille atmosphère. Vous avez saisi, je dis. Depuis quelque temps, la route montait en lacets sur la haute terre, le temps s'assombrissait, un brouillard s'élevait sur notre gauche, masquant l'emplacement où dormait lugubrement le Loch Katrine. Des nuées basses, chassées par le vent d'ouest, s'effilochaient au-dessus de nos têtes, traversées par le vol lourd des corbeaux aux cris lamentables, et quand la voiture pénétra sous une haute futaie d'où nous ne devions plus sortir que pour nous trouver au pied des Blackrooks, nous fûmes plongés dans une demi-obscurité plus triste que la nuit. À un carrefour, le chauffeur cala son moteur et nous crûmes à quelques pannes, mais il restait sur son siège, l'oreille tendue. Puis il se tourna vers nous et nous montra à travers la glace une tête pâle et des yeux égarés. Helena baissa rapidement la vitre. « Qu'y a-t-il, Olivier ?»« Milady n'a pas entendu, » balbutia-t-il. On a crié. Eh bien, Olivier, laissez crier. Oh, Milady, on a crié à la mort. Assurément, c'était la Banshee. Oh, vous êtes fou, Olivier. En route, je vous prie. Elle remonta la glace et Olivier repartit en vitesse, comme ayant hâte de sortir de cette forêt qui criait à la mort. Quoi qu'elle leur dit, Helena n'avait point reçu la singulière confidence du chauffeur sans émoi. Je le sentais bien, moi qui avais repris sa main. « Qu'est-ce que le Banshee ? » demandai-je. « Oh, c'est personne, » fit-elle, « c'est une imagination du pays. Chaque demeure de famille noble a sa Banshee. C'est un esprit femelle dont les gémissements passent pour être un avertissement certain de la mort d'un chef. Notre Banshee à nous s'appelle Jenny. Jenny the Weaver, Jenny la fileuse. Elle est apparue pour la dernière fois aux Black Rooks lors de la mort d'Edward Scarlett. Vous comprenez, on nous dit combien tout cela est absurde. Mais de vivre nuit et jour au milieu de ces fables, cela impressionne en vérité. Ces gens me rendent malade, ils ne vivent qu'avec les morts. Pour chasser la Banshee, je ne trouvais rien de mieux que de déposer un baiser bien vivant sur la chair glacée de Lady Helena au-dessus du gant. Elle me dit encore, « Oh, heureusement, heureusement, je vous dis que vous êtes venu. Vous êtes ma seule consolation ici-bas, je vous assure. » Et puis elle me retira sa main car nous arrivions aux Black Rooks. C'était moins un château qu'une forteresse, à laquelle nulle architecture moderne, du moins dans son cadre extérieur, n'avait ôté de sa rudesse et de sa farouche hostilité. Sombre demeure, pavée de froides dalles, enfumée plutôt que chauffée par des cheminées colossales, étroite fenêtre datant d'une époque où l'on enlevait les châssis en l'absence du seigneur, tant les carreaux de verre étaient alors un luxe rare et coûteux. Alors le vent et les fantômes étaient les seuls maîtres de ces salles maudites. Les fossés taillés dans le granit étaient pleins d'une eau maussade. Au-dessus des murs, dominant tout le pays d'alentour, une énorme tour formant donjon dressait encore sa lourde silhouette menaçante. Je ne pus retenir un soupir. « Oh, Helena ! » Et je lui serrai la main dans un geste de poignante commisération. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oh oui, Helena, pauvre Helena. Le son d'un corps s'était fait entendre et la porte de la cour d'honneur s'était ouverte. Un homme se précipita, son aspect était désordonné. Et il m'apparut tel que je n'eusse pu mieux l'imaginer si j'avais voulu me représenter l'habitant d'un pays sauvage et troublé par les tempêtes, avec les pommettes de ses joues fouettées perpétuellement par les vents, avec ses cheveux épars, avec sa voix forte aux notes dissonantes. « My God !» gémit Helena, « il est mort !» Et elle se renversa presque dans mes bras. Cependant, les paroles que proférait le rustre la rendirent bientôt à elle-même. Mélodie, Mélodie, le Seigneur est sauvé! Le Seigneur est sauvé! Ah, le ciel soit béni, murmura Helena. Oh, mon ami, soupira-t-elle en se tournant vers moi, quand j'ai vu arriver Patrick, j'ai bien cru que tout était fini. Je ne lui répondis point car jamais l'inexplicable Helena ne m'avait paru aussi impénétrable. Je me refusais d'emblée à croire à la sincérité de son désespoir. En quoi j'avais tort? Je devais en avoir la preuve le jour même. Nous ne fîmes que traverser la salle des gardes transformée en un immense et froid vestibule. Tout ce rez-de-chaussée n'avait guère été plus transformé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce n'est qu'au premier étage que le luxe apparut, mais un luxe d'un autre siècle, avec des tentures aux couleurs effacées et des meubles sculptés peu confortables. Les tables, les crédences supportaient des urnes d'argent, des coupes énormes, des joyaux éteints dans des coffrets fanés, des armes, des lances brisées, d'énormes clés morts garnissaient les murs sous les armoiries répétées des Grégor. Les armures se tenaient debout au coin des portes. Tout cela avait son histoire. Elle ne m'intéressait pas. J'ai trop vu de musées et de bric-à-brac. Je vous jure que je ne pénétrais pas dans ce grand salon d'honneur avec une âme d'antiquaire. Je n'étais pas disposé à m'en laisser compter par toutes ces vieilleries. Je rassemblais même mon énergie pour échapper à l'emprise d'une atmosphère dont j'avais un instant senti le poids en me penchant un peu trop. Au cours de la route, sur la mystérieuse angoisse de Lady Helena. Son attitude inattendue à l'aspect d'un Patrick désordonné m'avait à nouveau séparé d'elle. Si j'avais assisté à une crise géniale d'hypocrisie, c'était à douter de connaître jamais son vrai visage. Et si sa douleur était sincère, pourquoi ne m'avait-on pas laissé chez moi ? J'essayais froidement de peser le pour et le contre. Je faisais mon dossier. Maître Antonin Rose se demandait finalement s'il avait eu raison de répondre avec tant d'empressement à l'appel de son client. Tel était mon nouvel état d'esprit quand on m'eut laissé seul dans une chambre du second étage, aux murs nus, à demi lambrissés, où le jour ne pénétrait que par une étroite fenêtre garnie de petits carreaux enchâssés dans un quadrillage de plomb. Sur les murs, dans des cadres de bois verni, des gravures de chasse coloriées et modernes. Une croix de bois au-dessus de ma couchette. Je ne m'attendais point à cette cellule, et j'étais d'assez méchante humeur, quand Durin, poussant ma porte, m'apporta ma valise. Il paraissait lui-même assez mal en point. Cependant, il me demanda fort respectueusement des nouvelles de ma santé et m'exprima le plaisir qu'il avait à me revoir. « Lady Scarlett s'excuse auprès de monsieur, » me dit-il. « Monsieur déjeunera seul, madame est avec les médecins dans la chambre de Sir Archibald. »« J'ai appris qu'il allait mieux, » fis-je. « Oh, lui !» s'écria-t-il avec un ricanement sinistre que je n'oublierai de ma vie. « Il nous enterrera tous » Là-dessus, il me quitta en claquant la porte d'une façon assez indécente, mais il ne paraissait plus maître de ses mouvements. Je ne touchais guère au linge qui me fut servi dans une salle à manger haute et froide. Les énormes bûches qui faisaient leur braise dans une cheminée tenant la moitié du mur, ne parvenait pas à me réchauffer. Le vent gémissait par intervalles, avec une violence subitement déchaînée, comme une meute qui se rapproche, accourt aboyante et rageuse, puis s'éloigne pour revenir encore. La fumée des braises, souvent rabattue, tourbillonnait, envahissait la salle. J'étais obligé de m'écarter. Les ancêtres devaient sourire dans cette boucane. Mais ça ne les gênait pas, paraît-il. Le maître d'hôtel que l'on avait fait monter d'Édimbourg pour la saison des chasses me narrait que lorsque les lairds, auxquels se joignaient quelquefois ceux des petites îles du Nord, étaient réunis, tout venait sur la table par paire. Les énormes morceaux de porc rôti, les gigots et les poissons qui étaient toujours d'une taille prodigieuse. En manière de hors-d'œuvre, on servait à chacun une douzaine de bêtes à plumes. On ne buvait que du porto et de l'eau-de-vie, fournis par les contrebandiers ou les pirates. Et c'était des paris extravagants pour vider les pots. Tel engageait sa femme, son château, et l'on fumait les pieds sur la table en chantant en chœur des ballades. Pas de dame. Il roulait à tour de rôle par terre. Le dernier debout était proclamé roi de la fête. Maintenant tout a bien dégénéré, et les gentlemen farmers de la côte ont voyagé et en remontreraient à la gentry d'Édimbourg. Toutefois, on retrouve ces mœurs dans certains coins perdus des Highlands, et quelques western squires d'aujourd'hui se montrent les dignes descendants des chefs de clan d'autrefois. Ce n'est pas chez Sir Archibald, fis-je, que l'on trouverait pareille compagnie. Oh, Sir Archibald est un grand seigneur d'aujourd'hui, mais il y a certains soirs de chasse, ajouta-t-il avec son plus fin sourire, où, quand les dames sont parties, leurs honneurs mettent encore leurs pieds sur la table. J'en étais réduit à cette conversation. On m'avait abandonné à ce domestique. Je ne m'en payais pas du reste, car c'est sans entrain que j'aurais accueilli comme compagne de captivité cette étrange et toujours muette Mrs. Tennyson, que je n'ai jamais pu regarder sans malaise. Je remontai dans ma cellule. C'est là qu'Helena va me trouver. Elle était enveloppée d'un manteau de montagne et tout encapuchonnée d'une toque qui lui cachait les oreilles. « Venez, Rudy, j'ai dit à Sir Archibald que j'allais vous faire faire un tour avant le thé. Il vous souhaite la bienvenue. Il se fera un plaisir de vous voir ce soir. Il va beaucoup mieux. Il va beaucoup mieux qu'avant. Ce n'était qu'une crise hépatique, mais il devra suivre un régime sévère. » Elle me disait tout cela en m'entraînant. Elle me faisait passer par de petits couloirs, des escaliers qui tournaient sur eux-mêmes. « Oh, excusez-moi, nous irons plus vite par ici. » Elle me fit traverser la cour d'honneur, presque en courant, et ne s'arrêta pour me laisser souffler que lorsque nous fûmes sortis de cette sombre demeure. Elle-même respira longuement, et puis nous reprîmes notre course dans le vent, fouettée par une petite pluie glacée. « Je m'imagine, Rudy, que nous fuyons ce château pour toujours et que je ne le reverrai plus, jamais. Nevermore, oh darling, if you only knew, si vous saviez. » Elle eut une plainte si désespérée que je voulus emprisonner sa douleur dans mes bras, mais elle s'échappa et se reprit à courir, fuyant les Black Rooks, et m'appelant « Viens, viens !» Et j'allais à travers le vent, à travers la pluie, comme si elle m'avait pris au lasso, comme si j'obéissais au fil invisible avec lequel elle m'avait noué à ses pas. Et elle grimpait à travers les roches, toujours plus haut, avec une sûreté de chevrier. Ainsi arrivâmes-nous à une étroite plateforme d'où nous dominions tout le pays. Alors là, elle m'étreignit et me dit, ses yeux sur les miens, ses pauvres grands yeux hagards sur les miens, « Jure, jure que nous fuirons ensemble, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Oh, swear it, you must swear it. » Je jurai. Alors, desserrant son étreinte, elle me dit « Tu as bien fait de jurer, Rudy. Sans quoi nous appartenions tous les deux au Gillemore. » « Au Gillemore ? » « Oui, au Gillemore. Le plus grand page, porteur de l'épée, l'écuyer de Jacques, le petit-fils de Rob Roy. » Le Gillemore faisait la cour à sa femme. Il les a jetés tous les deux au sceau des Black Rooks. Voilà pourquoi je te dis que le Gillemore nous attendait là en bas. Et elle me désigna le bord escarpé sur lequel nous nous trouvions. Je jetai un coup d'œil au-dessous de moi et aussitôt je reculai devant l'abîme m'accrochant à elle. Étourdi, j'essayais néanmoins de plaisanter. Oh, ne faites pas l'enfant, je dis. Nous allons fuir ensemble, et le plus tôt possible, car je crois bien qu'il se doute de quelque chose. Alors, nous descendions et nous traversions une futaie épaisse qui nous garantissait de la pluie, mais qui nous plongeait dans une demi-obscurité où elle ne me vit pas pâlir. Je fus quelque temps avant de pouvoir parler, comme si le saut des gilets morts se fût à nouveau trouvé sous mes pieds. Mais qu'est-ce qui vous fait croire cela, Helena? Darling, quand vous m'avez écrit à Deauville, Sir Archibald y était de retour. Vous savez cette petite lettre où vous me disiez « Viens » et que vous aviez signé Rudy, me donnant votre adresse, Maître Antonin Rose la délivrande. Oui, eh bien. Darling, je crois en vérité que cette lettre avait déjà été ouverte quand je la trouvais dans mon courrier. Oh, nom de Dieu! Yes, down! Et puis nous n'avons, n'est-il point vrai, Rudy, nous n'avons pas toujours été très prudents avec Fatty. Nous l'avons pris un peu trop facile. Il est ici, Fatty? Non, Fatty est mort. Oh, je crois en vérité qu'il lui est arrivé un accident. Durand l'a peut-être empoisonné, mais ça n'a pas d'importance. Un domestique. Ce qui est important, darling, c'est l'amitié soudaine et extraordinaire, en vérité, que Sir Archibald vous a manifestée. Cette invitation inattendue de venir à ses chasses aux Black Rooks, cela ne s'indiquait pas nécessairement. Ce n'est pas votre avis, Rudy, darling? Ah, vous me faites entrevoir des choses. Il est tout à fait possible qu'il ait voulu vous attirer chez lui, n'est-ce pas? Mais nous allons fuir. Nous étions arrivés au château. Ah, je pense bien que nous allons fuir. Et même j'aurais fui tout de suite et sans elle, malgré mon serment. Mais comment avais-je été assez bête pour écrire cette lettre? La nuit était tout à fait tombée. Des valets nous entouraient, guidant nos pas et nous débarrassant dans la salle des gardes de nos manteaux trempés. Darling, je vous attends au thé. En même temps, Durin apparaissait et me conduisait dans ma chambre. Il ne semblait plus nerveux du tout, mais une singulière détermination avait comme momifié sa dure physionomie. Oh, ce n'était plus le niais et Durin, et nous étions loin des pleurnicheries de l'audience. Du reste, pendant mon court séjour au château, il ne fit jamais allusion au procès et me traita en valet de grand style. Le thé se passa sans incident. Mrs. Tennyson y assistait. Je fus étonné d'entendre sa voix. Ce fut pour dire à Helena qu'en notre absence, il y avait eu un gros émoi à l'office. Patrick était remonté tout pâle des sous-sols où il logeait, en prétendant qu'il avait entendu distinctement la plainte de la banshee. D'autres domestiques firent chorus, affirmant l'avoir entendu aussi, sous la fenêtre de la dame verte, « The Green Lady ». Il faisait un tel tapage que, finalement, Mrs. Tennyson avait dû se fâcher et disperser cette valetaille. J'étais tellement préoccupé de ce qu'Héléna m'avait dit que je ne prêtais nulle attention à ces histoires de fantômes et de revenants qui hantent toutes les cervelles dans les Highlands et sont l'éternel sujet des conversations du bas peuple. J'entendis seulement Helena qui prononçait d'une voix blanche « Il faut leur pardonner, Mina. La dernière fois que la banshee a été entendue sous la fenêtre de la Dame Verte, c'était la veille de la mort de Sir Edward, le père de Sir Archibald. La maladie du baronnet achève de leur faire perdre la tête, et ce n'est pas Patrick, avec la vie qu'on lui fait mener ici, qui a le cerveau le plus solide. » Je ne demandais même point ce que c'était que la fenêtre de la Dame Verte. Au surplus, une hurin venait me chercher pour me conduire auprès de Sir Archibald. Je ne pus m'empêcher de tressaillir, et je fus accompagné jusqu'à la porte par le regard plein d'angoisse d'Héléna. Le baronnet avait son appartement sur le carré ouest du château. Un vestibule le séparait de la chambre de Lady Helena, qui occupait toute la surface circulaire de la grosse tour. Dans la minute que je mis à me rendre en ces lieux, je m'efforçais de rassembler tout mon sang-froid. Il faut être naturel, naturel, car au fond, il ne se doute peut-être de rien. Présentons-nous à lui, comme si Lady Helena ne m'avait rien dit, comme je serais venu à lui ce matin même, en ami, en invité ordinaire. Et je me répétais, comme si Helena ne m'avait rien dit, en invité absolument ordinaire. Cependant, je ne parvenais pas à maîtriser les mouvements de mon cœur. Durin ne semblait au courant de rien. Il happa deux coups légers à la porte, et un enfant d'une douzaine d'années, à la tête intelligente et éveillée, mais au regard triste, nous ouvrit. Durin disparut aussitôt. L'enfant poussa le verrou derrière moi et me fit signe de le suivre. Je n'étais pas rassuré du tout, du tout. Nous traversâmes une première pièce, puis l'enfant ouvrit la porte de la chambre. Aussitôt, j'aperçus sur son lit Sir Archibald qui tendait les mains vers moi. Ses grands yeux étaient encore plus pâles, plus effacés, bien qu'il les ouvrît tout grands sur moi, immenses et pâles. Il me regardait comme derrière une vitre froide et claire, claire. Sa mine était celle d'un homme qui avait beaucoup souffert, mais son aspect général, celui d'un homme parfaitement vivant et qui ne tient point à mourir de sitôt. Il m'embrassa presque en me remerciant d'être venu et en regrettant que les circonstances ne lui eussent pas permis de me faire un meilleur accueil. Puis il se tourna vers l'enfant et lui fit signe de disparaître. Celui-ci aussitôt ouvrit une porte au fond de la pièce et nous laissa seuls. C'est, dit-il, mon petit page, my little page. Il répéta plusieurs fois, my little page, oh, le seul être qui m'aime au monde, le seul en qui j'ai confiance. Un enfant, voilà mon seul soutien ici-bas. C'est le fils de mon vieux serviteur Patrick. Je l'ai toujours gâté, ah oui, assurément. Je n'ai plus de confiance qu'en lui, car il m'aime. Soudain, il se souleva et m'attirant contre sa figure, il me dit d'une voix sourde, « Crois bien qu'on a voulu m'empoisonner. » Je reculai, frappé d'horreur. Mais il m'attirait plus près de lui encore, et son regard blanc m'épouvantait. M'empoisonner, m'empoisonner, que dites-vous de cela? Je claquais des dents. Il reprenait. Oh, ce durin, oh, je ne mourrai pas. Avant de mourir, je veux savoir, n'est-ce pas? C'est bien mon droit. Répondez, mais répondez-moi donc. Je balbutiais. Oh, ce que vous me dites est tellement épouvantable. Il eut un ricanement singulièrement diabolique, du moins je l'entendis tel, ce qui me fit fléchir sur mes jambes, mes pauvres jambes. Vraiment, vous trouvez vraiment cela épouvantable? Pour apprécier tout à fait ma situation et comprendre mon état d'âme, il ne faut pas oublier que Sir Archibald me retenait toujours par les mains. Certainement, je l'eusse voulu que je n'aurais pas pu me dégager. J'étais totalement incapable du moindre effort physique. Sœur Archibald, supplierai-je, sortez de ce cauchemar. Vous avez été malade, très malade. Ce n'est pas ce que je vous demande. Vous connaissez bien Durin, vous. Vous avez plaidé pour lui. Oh, Sœur Archibald, je l'ai vu deux fois. C'est un malheureux dont vous avez eu pitié. Il vous est dévoué depuis longtemps. Comment avez-vous pu avoir une pensée pareille? Je m'arrêtai glacé, parce que j'avais la sensation subite que je le défendais trop, dans ma peur, dans ma lâcheté. Car au fond, je savais que Durin était tout à fait capable de ce crime. Mais j'en écartais la pensée de celui que j'aurais dû mettre en garde pour ne pas être mêlé personnellement à une abomination pareille. Et puis voilà, qu'en me défendant, j'allais peut-être me perdre pour l'avoir trop défendu, lui. Non, je n'aurais pas dû prendre aussi chaudement sa défense. C'était une faute, cela. Une faute incalculable et peut-être un crime. Ce qui finit de m'épouvanter, c'est que Sir Archibald, tout en écoutant mes protestations véhémentes, s'était mis à siffler. Oui, il sifflait, froidement. Et moi, je n'avais pas besoin de cela pour sentir tout tourner autour de moi. Brusquement, Sir Archibald s'arrêta de siffler, et je fus encore plus épouvanté. Il me disait... Qui vous fait penser que j'ai eu pitié de lui? En vérité, je ne savais que répondre. Je vous le demande. Que vouliez-vous que je répondisse à une telle question, posée sur un ton pareil, le ton d'une réflexion profonde et infiniment sournoise? Alors il continua, comme si je lui eusse répondu. Vous me dites l'audience? Eh bien, l'audience! J'ai fait ce que je devais faire pour ramener Durin chez moi. Vous avez cru que je voulais sauver son âme? Me prenez-vous pour un imbécile? Que son âme aille au diable, mais pas sans ma permission. Voilà pourquoi il est ici. Et moi, pensais-je, pourquoi suis-je ici? Pourquoi m'a-t-il moi aussi ramené ici? Ah, Elena avait raison, Elena avait raison. Et le malade continuait implacable. Durin, sans doute, allez, il sans doute, puisqu'il a voulu m'empoisonner. Je vous dis cela entre nous, tout à fait entre nous. Vous êtes un homme d'honneur, un avocat à la cour, un homme de loi. On peut avoir confiance en un homme de loi. Vous, je vous ai fait venir pour vous consulter, pour avoir votre avis sur tout ceci. Et pour compléter votre instruction, écoutez bien, cher monsieur et ami, vous avez cru défendre un brave honnête homme de voleur, mais que diriez-vous si vous aviez défendu un assassin? Un homme qui avait décidé de le devenir, enfin, quelque chose comme Mr. Flow. Ah, ceci est entre nous, tout à fait entre nous, je le répète. Surtout que Sir Philippe n'en sache rien. Mon frère n'avait point le droit de se mêler de cette affaire. Son intervention publique est ma honte. Il s'est dressé contre le chef de famille. Mon frère Philippe a voulu détruire la famille. Vous m'avez compris? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si j'avais compris. Mais avais-je tout compris? Et lui, avait-il tout compris? Mais que dire, puisque je ne pouvais ni défendre ni attaquer Durin. J'eus encore le tort de vouloir m'en tirer avec des paroles banales. Il n'y a pas de paroles banales à des heures pareilles. Non, il n'y en a pas. Je souhaite pour votre repos, Sir Archibald, que vous vous soyez trompé. Si vous avez des soupçons, il me semble que l'audience aurait dû vous les faire écarter. l'affreux ricanement reprit. « Je vous attendais bien là, très cher monsieur. Oui, je vous y attendais. Mais réfléchissez un peu, je vous prie, que tout s'expliquerait. Si Durin avait inventé, pendant qu'il était en prison, un faux monsieur Prime. Ah, vous avez saisi. Je vois que vous avez saisi. Merci, vous, je vous tiens là debout, je vous fatigue. Pardonnez-moi, j'avais tant besoin, dans une situation aussi pénible, de dire ces choses à un homme de loi, à un tout jeune homme de loi. Un véritable maître m'eût déjà fait taire, ou il eût déjà fait taire ce vieux fou, assurément. Mais vous, vous m'écoutez, je sens que vous ne perdez aucune de mes paroles. Je répète, reprit-il en agitant un index qui me faisait loucher, un autre monsieur Prime, un acolyte, un complice. Eh bien, cher jeune ami, je crois en vérité l'avoir trouvé. Et je vais vous dire son nom à vous tout seul et tout à fait entre nous, et par amitié pour vous, car enfin, si je disparaissais avant d'être très correctement sûr d'un fait de cette importance, avant d'avoir nettement et honorablement terminé cette affaire, je serais heureux de savoir qu'un homme comme vous se ferait un point d'honneur de soulever le dernier masque qui cache la vérité. Je dis bien un point d'honneur, car, mon cher maître, vous avez trompé tout le monde en vous trompant vous-même. Durin s'est joué de vous d'une façon qu'il ne pardonne pas. Par le truchement de ce damné faux, monsieur Prime. Je vais donc vous dire le nom de cet homme, ou tout au moins de celui que je soupçonne être cet homme, conclut-il en cessant d'agiter son insupportable index et en se penchant au-dessus de moi avec une brusquerie de polichinelle qui se casse en deux, contorsion qui m'eût fait sourire en d'autres temps. Certainement, je me serais bouché les oreilles si mes mains n'eussent été occupées à me maintenir sur ma chaise avec une énergie forcenée et du reste tout à fait inconsciente. Il s'agissait d'un certain Victor. Vous dites ? Oh, un certain Victor Bermond. Vous connaissez pas cela ? C'est un garçon coiffeur, place de la Bourse, et s'habite rue Notre-Dame-des-Victoires. Il prend des paris pour les courses, et il était à Deauville cet été. Je revenais de loin. Je crois que je n'étais jamais revenu d'aussi loin. Certes, le bonhomme était sur la piste, et en toute autre circonstance, je ne m'en fusse guère réjoui. Mais j'avais tellement eu peur d'autre chose de définitive, d'irrémédiable. Ah, maintenant, j'avais au moins le temps de me retourner, de réfléchir. Depuis qu'il avait prononcé le nom de Victor, mes pensées recommençaient à prendre forme. Dans la solitude, elles allaient se grouper à nouveau, les pensées pour d'un côté et les pensées contre de l'autre. Et ensuite, à moi de tracer une ligne de fuite, assurément, mais prudente, très prudente. Une faute pouvant tout précipiter. Ouf ! Profitant de la respiration qui m'était rendue, je dis à tout hasard, et vraiment de telles paroles s'imposaient dans la bouche d'un homme de loi. « Mais pourquoi n'en avez-vous pas fait part à la police ?» J'ai cru qu'il allait sauter de son lit. Il agita ses bras qui me parurent démesurés, et pour se calmer, avant de me répondre, il vida la moitié d'une potion qui remplissait un verre laissé par le petit page sur la table de nuit avant de nous quitter. De fait, Sir Archibald devint tout de suite à peu près normal. Il me dit simplement « La police n'a rien à faire dans tout ceci. Les Scarlett ont toujours réglé leurs affaires en famille. Ils n'ont besoin de personne. » Simplement, je le répète, ceci était dit, mais cette simplicité-là était tranchante comme les lames de rasoir de Victor. Nous restâmes en face l'un de l'autre encore quelque temps sans rien nous dire. Puis il reprit avec un effort assez mélancolique. « Celle qu'il faut plaindre dans toute cette affreuse histoire, c'est Lady Scarlett. Connaissez-vous quelque chose au monde de plus noble, de plus magnifique, de plus digne d'un grand nom et d'une grande fortune que Lady Scarlett? Je vous prie de me répondre à cela, cher ami. » « Oh non, » fis-je un peu oppressé, « non. Lady Scarlett est une grande dame et une digne épouse. »« La plus grande, mon petit ami, et la plus digne. » Je baissai la tête, tout à fait désireux de ne rien ajouter à ce terrible entretien, et aspirant de toute mon âme à le voir se terminer au plus tôt. Il me semblait que j'étais dans cette chambre depuis 1000 ans. Cependant, comme le silence se prolongeait indéfiniment, je crus que je pouvais me lever et prendre congé. Alors, je m'aperçus que Sir Archibald dormait profondément. La potion dont il avait bu sans modération produisait de toute évidence son effet. Je remuai pour avertir le petit page ou même pour éveiller Sir Archibald, car enfin j'étais assez embarrassé de ma personne. Mais le malade semblait en plomb et personne ne venait me tirer de là, si bien que je finis par ouvrir la porte qui avait livré passage à l'enfant que je trouvais dans la pièce à côté, feuilletant un livre d'images. Il vint à mon appel. Je lui montrai Sir Archibald et lui dis qu'il s'était subitement endormi. Alors le petit regarda le verre et dit « Oh, sa seigneurie a pris de la potion, cela la calme instantanément. Sa seigneurie a eu une crise ?»« Non, il n'a pas eu à proprement parler de crise. » »« Alors sa seigneurie la sentait venir. Oh, dans une demi-heure, elle se réveillera. » Sur quoi il me conduisit jusqu'à la porte du vestibule, me l'ouvrit et me souhaita le bonsoir. Puis je l'entendis qui tirait le verrou. Je regardai la chambre. Durin avait déjà déposé sur mon lit mon linge de soirée et mon dining jacket. Je le congédiai. Il ne me posa aucune question. Il était de plus en plus fermé. Quand je fus seul, je poussai un sourire énorme. « Oh, je ne vais pas moisir ici !» Où allais-je courir, je n'en savais rien.